Le journal présenté par François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Des enfants de l'école primaire du château de Delémont se transforment en guides pour les 300 ans de l'édifice. Les élèves accueillent les visiteurs et leur donnent des explications historiques en costume d'époque. Pierre Rotet plonge ses lecteurs dans un complot autour de l'église catholique. L'ancien journaliste et écrivain jurassien publie un roman intitulé « Meurtre au Vatican, la conspiration, l'Amérique latine en otage ». En hockey sur glace, le HC Franche-Montagne s'est incliné hier pour la reprise du championnat de My Hockey League. Les Teignons ont perdu 4-3 après les tirs au but face à Dubendorf. Météo, un temps bien ensoleillé cet après-midi, malgré la présence de quelques nuages. Il fera entre 11 et 15 degrés maximum. Le soleil devrait être présent demain matin, mais les nuages seront de retour par la suite. C'est une manière pour le moins originale de découvrir le château de Delémont. Le vénérable édifice célèbre ses 300 ans et les festivités s'achèveront aujourd'hui. Des élèves de l'école primaire du château de Delémont se sont transformés en guides en herbe pour l'occasion. Ils sont 34 enfants à présenter l'édifice achevé en 1724 pour servir de résidence d'été au prince-évêque de Bâle et qui accueille un établissement scolaire depuis 1846. Les enfants sont déguisés en personnages de l'époque et sont répartis en plusieurs postes pour accueillir les visiteurs et leur donner des explications historiques de manière théâtralisée. Reportage avec les guides en herbe du château de Delémont.
À cette époque, Delémont, c'était juste la vieille ville qu'il y a maintenant, avec son rempart et ses quatre portes.
Ici même se trouve un portail assez monumental qui a été construit plusieurs années après le château.
Voilà, et puis maintenant, vous pouvez aller vers notre forgeron là-bas.
Ou vers nos lessiveurs.
Yaël, tu es un des guides de cette visite du château. Comment est-ce que tu as appris tout ce que tu sais sur le château?
On est allé au musée jurassien et on a dû apprendre des textes. On a appris beaucoup de choses sur le château qu'on ne savait pas. Et que presque personne ne sait d'ailleurs. Et c'était super intéressant, on a appris plein de choses et puis c'est cool.
Tu es aussi, et puis ton copain qui fait la visite avec toi, déguisé, vous êtes déguisé en quoi?
En paysan, on est les petits paysans du château.
Tu trouves ça sympa à faire, d'expliquer aux gens comment a été construit ce château, qu'est-ce qu'il y a dedans ou à l'extérieur?
Oh, c'est super bien, c'est super intéressant. Et puis des fois, les gens, ils nous remercient, ils sont gentils. Et puis des fois, c'est l'inverse, ils sont méchants et ils passent à côté.
Il y a beaucoup de gens méchants?
Non, pas beaucoup, mais ça arrive de temps en temps.
Bonjour, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles?
Lara. Nous, du coup, on est lessiveurs. Mon déguisement, j'ai une chemise blanche avec un corset, un jupon et une jupe et un tablier noir. Quand on explique à des gens, y en a des qui peuvent arriver en cours de route, alors on doit s'adapter des fois. Et sinon, oui, ça se passe bien. Le week-end dernier aussi, c'est bien allé. On essaie de faire notre mieux possible.
De mon côté, j'ai encore un petit secret à vous livrer. Vous voyez cette coursive? Vous savez à quoi elle servait? Elle fait le lien entre les deux bâtiments afin d'éviter de se mêler à la foule. Le receveur passe par là pour amener au prince les impôts payés en pièces ou en espèces par les habitants de Delémont. Si vous n'êtes pas encore allé au poste de l'entrée principale du château, la suite de la visite se fera par là-bas.
Bienvenue dans le château du prince-évêque. Nous sommes les valets du prince et vous accueillons avec plaisir. Vous êtes devant des cages d'escalier ici extrêmement rares. Il n'existe aucun autre modèle similaire en Suisse à cette époque.
Julia de Delémont, Christiane Schaffner.
Qu'est-ce que vous en pensez de ces visites mises en place par ces guides en herbe?
Ah, moi je trouve que c'est magnifique, ils ont fait un travail absolument fantastique. Je pense qu'ils ont eu un beau projet d'histoire dans l'école.
Claire Drault de Delémont. C'est très touchant de voir que des enfants connaissent maintenant leur château. On pense que c'est une école, puis on remarque pas vraiment les portes, les escaliers. Tandis que là, ils nous expliquent vraiment bien.
Alors moi, je m'appelle Schaffter Pierre, je viens du deuxième Brunstall. C'est une exploitation agricole qui est en dessous de Delémont. Et puis il y a mes petits-enfants qui expliquent ici aujourd'hui, puis je tenais à venir voir finalement ce qu'ils ont appris. C'est super, ils sont très expressifs, ils jouent leur jeu, ils ont répété une année. Je trouve ça bien, c'est touchant, ils s'investissent beaucoup, c'est bien.
Je suis une domestique et je m'occupe du bien-être de monsieur le prince-évêque, car si sa seigneurie ne serait pas agréablement posée, eh bien il irait voir ailleurs, donc pas de boulot pour vous deux.
Allez bien, part, de toute façon elle n'en vaut pas la peine, quand on est bonny sur le reste.
Le monde est rempli d'ingrates.
Bravo.
Bravo les filles. Les visites du château de Delémont par les guides en herbe se poursuivent cet après-midi de 13h30 à 16h30. C'est un roman qui pourrait ne rien avoir d'une fiction, selon son auteur. L'ancien journaliste et écrivain jurassien Pierre Rotet publie un 7e ouvrage. Le livre s'intitule « Meurtre au Vatican, la conspiration, l'Amérique latine en otage ». Il s'inspire de deux événements survenus à Rome en 1978 et 1998. Le premier est le décès du pape Jean-Paul Ier. Le second, l'affaire Tornet, du nom de ce garde suisse du pape, un Valaisan accusé d'avoir tué son commandant et son épouse avant de se suicider. Pierre Rotet a imaginé qu'un seul homme était à l'origine de tous ces décès, une histoire sur fond d'affinité entre l'Église catholique et les dictatures d'Amérique latine.
L'assassin du pape Jean-Paul Ier, il a peur parce qu'il a fallu la complicité dans mon livre, la complicité d'un garde suisse. Ce garde suisse est demeuré à Rome et il est tellement pris par sa conscience qu'il pèse d'avoir été le complice qu'il laisse des traces et il laisse entendre qu'il va parler et qu'il va se confier à un jeune garde suisse, lequel devra se confier au commandant de la garde suisse. Alors, le bourreau de Jean-Paul Ier revient de nouveau sur les lieux parce qu'il fallait absolument éliminer ce jeune garde suisse qui venait d'apprendre quelque chose d'absolument extraordinaire, incroyable. C'était l'assassinat de Jean-Paul Ier. Et par conséquent, le commandant de la garde suisse, qui était au courant, l'épouse du commandant étant en dommage collatéral, disons.
Le roman « Meurtre au Vatican, la conspiration, l'Amérique latine en otage » est publié aux éditions La Cathédrale. La fermeture de gares en Suisse représente une option, c'est ce que déclare le directeur général des CFF dans Le Matin dimanche. Vincent Ducrot dit ne pas exclure cette solution à long terme. Selon lui, certaines petites gares devront être repensées. Les arrêts fréquents des trains ralentissent le système et utilisent beaucoup de capacités du réseau, précise Vincent Ducrot. La Suisse vit à l'heure du jeûne fédéral qui se tient aujourd'hui. La manifestation donne même lieu à un jour de congé demain dans certains cantons comme Vaud et Neuchâtel, mais aussi dans une partie du Jura bernois. La tradition du jeûne fédéral a été décrétée au XIXe siècle dans un but bien précis, comme l'explique le théologien et journaliste Cédric Nimitz.
Les cantons protestants, à la fin du Moyen-Âge, avaient leur propre jour de jeûne, les cantons catholiques, leur propre jour de jeûne. Et dans le processus d'unification du pays, de réunion de la Confédération, notamment après la guerre du Sonderbund, donc quand les cantons catholiques et les cantons protestants se sont opposés les uns aux autres, on a vraiment décidé de faire une journée commune pour l'ensemble de la Suisse et fixée au troisième dimanche du mois de septembre.
Alors tout le monde a ce jeûne fédéral, mais lundi du jeûne, seulement quelques cantons, comment ça se fait ?
Eh bien parce que la Confédération a décidé qu'il y avait ce jour, mais n'a rien décidé sur comment on le fête et comment on le marque. Et les cantons restent indépendants pour cela. Ça veut dire que certains cantons ont décidé qu'on marquait le coup un peu plus fort avec un jour de congé le lundi et d'autres cantons pas du tout.
Des propos recueillis par Raphaël Girardin. À l'étranger, la tempête Boris déferle sur une partie de l'Europe. Le trafic ferroviaire a été interrompu la nuit dernière dans une partie de l'Autriche. La région de Basse-Autriche, dans le nord-est du pays, a été classée en zone de catastrophe naturelle. De violentes pluies et des inondations sont attendues ces prochaines heures. La tempête Boris a déjà fait 4 morts hier en Roumanie, 1 en Pologne et un pompier est décédé en Autriche.
À l'écoute d'RFJ, il est midi 24.
Sport. L'actualité sportive avec vous, Nicolas Meusy. En hockey sur glace, le HC Franche-Montagne a connu un faux départ.
Le HCFM a perdu 4-3 au tir au but contre Dubendorf hier soir à Seignelégier à l'occasion de l'ouverture du championnat de My Hockey League. Et face aux néo-promus zurichois, les Teignons ont concédé l'ouverture du score en tout début de rencontre. Ce but tombé très tôt a mis un coup derrière la tête des Jurassiens, selon l'entraîneur du HCFM, Vincent Leschen.
Premier match de la saison, après 8 secondes, tu reçois un but. C'est vrai que ça scie un peu les jambes des joueurs. Et puis la confiance est un peu partie. Mais moi, j'aimerais relever qu'après, on a su réagir, on a montré du caractère. Et c'est vrai que sur les 65 minutes, on méritait amplement de gagner ce match. C'est ce que je dis dans le vestiaire. Je veux dire, des matchs comme ça, on doit rester concentré, conséquent dans notre jeu. et puis pas avoir des absences comme on a eu pendant quelques temps, et c'est les buts qu'on a reçus.
Au niveau défensif, donc des absences, au niveau offensif, des ratés quand même, il y a eu des opportunités.
Je pense qu'on a pratiquement le double de tirs d'eux. C'est vrai que devant le but, il faut, de temps en temps, il faut faire ça à l'instinct, ça doit être... On ne doit pas trop réfléchir. Les meilleurs buteurs, c'est ceux qui réfléchissent le moins. Et là, je pense que des fois, on a fait la passe de trop. Je trouve que là, après le premier tiers, on a deux grosses chances de marquer. Et puis, on fait la passe de trop et c'est dommage. Quand il y a 3-4 buts d'écart, tu peux le faire. Mais quand c'est un match aussi serré, tu dois prendre tes responsabilités pour mettre le puck au fond.
Le SHC Rosmaison n'a pas tremblé face à la lanterne rouge de Liga d'Inline Hockey. Les Vadais sont allés battre l'échelle 9-2 hier et reviennent à 2 points du leader Sayaluka. Et puis le SHC Buis s'est imposé 5-3 à domicile contre Malcantonais et se retrouve à 2 points de la 3e place. Le FC Basse-Cour a raté le coche en première ligue. Il a perdu 1-0 sur la pelouse de Tounem 21 en encaissant le seul but du match au quart d'heure de jeu. Les footballeurs Vadais reste en position de premier relégable avec un point de retard sur la barre. Un duel pour le podium de première ligue de football. Bézabienne se déplace à Courtétel cet après-midi à 14h30. Les Célandais sont 6e, les Jurassiens 4e avec un point d'avance. Et en cas de victoire, eh bien les Jurassiens pourraient grimper à la 2e place du classement et revenir à 2 petites longueurs du leader. Vous entendrez des réactions d'après-match dans le journal de 18h. Le FC Ajoie-Montéry peut passer dans la première moitié du classement en 2e ligue interrégionale. Les Ajoulots, 9e, reçoivent Pratteln, premier non relégable, à 16h à Courgenay. Une victoire les ferait grimper au 5e rang. Un échelon plus bas, le FC Otageois glisse à la 3e place du groupe 2 de 2e ligue. La faute à son match nul 2-2 chez le FC Courant de Lincourou qui lui prend 2 points d'avance sur la barre. Porrentruy est 5e après son nul 2-2 à Vorbes. Le FCP voit revenir à sa hauteur Diaspora, vainqueur 2-0 à Herzogenbourzé. Et puis Moutier a fait 2-2 contre Grünstern et reste avant-dernier du classement. Et puis en 3e ligue, le FC Franche-Montagne sort de la zone rouge dans le groupe 5 grâce à sa victoire 5-1 contre Moutier qui est en milieu de classement. Alors que dans le groupe 6, le FC Al caracole en tête après sa victoire 4-1 à Vic. Develier est juste derrière suite à son succès 2-0 contre Ajoie-Montéry. Courtétel reste au-dessus de la barre avec son nul 3-3 face à Basse-Cour. Et dans le duel de relégables, Faï a dominé la Courtine 4-2. Le néo-promu Ténion est lanterne rouge. Week-end faste pour la FSG Halle. Le club d'athlétisme jurassien a pris part avec succès au championnat de Suisse Interclub hier. Les hommes ont brillé à Saint-Gall pour leur première participation en Ligue Nationale B. Ils ont terminé au 2e rang avec 277,5 points entre Langasse-et-Berne et Winterthur. Et les filles aussi ont cartonné en assurant leur montée en Ligue Nationale C à Rienne dans le canton de Bâle-Ville. Elles ont dominé le classement de Ligue Promotion A avec 189 points devant Innerschwitz et Fribourg-Romand. Le week-end se termine à domicile pour la FSG Halle avec les finales suisses du 1000 mètres junior. Ils ont dompté les montagnes du Grand Chasseral. Nicolas Curti de Malraix et Alain Yagui du Fuet ont traversé à pied les 8 sommets de la région. Ils sont partis vendredi soir de l'hôtel Chasseral pour rejoindre hier la couronne de Sonsbeau, en passant par Montsujet, Le Rémeux ou encore Mont-Soleil. 100 km et 3900 mètres de dénivelé positif avalés en l'espace de 20 heures. Les deux amis ont voulu relever ce défi pour mettre en valeur la région. Nicolas Curti revient sur cette expérience hors norme.
Ça s'est déroulé, je dirais, de manière très positive. Ça a commencé avec une météo qui était très compliquée. On est arrivé à Chasseral, il y avait 1 degré, du brouillard, du vent, de la pluie. Donc, on a perdu pas mal de temps au début. Et après, ça s'est stabilisé. Bon, il y a eu pas mal de pluie pendant la nuit quand même. Mais je dirais, au lever du jour, après, ça s'est quand même bien calmé. Puis, on a eu une météo qui était clémente. Et puis, pas de blessés, tout le monde est arrivé à bon port, donc c'était une superbe aventure. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir passer par toutes les montagnes du Grand Chasseral. Ce qui nous a marqué, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont venus nous accompagner de manière complètement spontanée. Bien sûr, des amis, mais aussi des gens qui n'étaient pas forcément dans le sport ou simplement des gens qui habitaient par là. Et puis, ils ont suivi un bout, qui ont organisé des ravitaillements, qui ont organisé des petits accueils avec des cloches et de l'ambiance. Donc c'était vraiment un truc incroyable de ce point de vue-là.
Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Je vous souhaite une très bonne suite de journée.